Sur la France, enfin, moi, je peux me situer peut-être. Je suis membre du secrétariat d'édition de l'Encyclopédie du développement durable. J'ai beaucoup travaillé avec 4D, dossier débat pour le développement durable. Et actuellement, je travaille avec l'UNADEL sur justement des projets de transition énergétique locaux. Et effectivement, vous n'avez pas du tout mentionné cet aspect lié en fait à une politique verticale d'obligation des territoires de réaliser leur plan climat énergie territorial avec des financements importants à la clé, notamment de la part de l'aide avec l'aide de l'ADEME, avec des programmes également leaders au niveau européen. Donc il y a ce mouvement aussi des territoires à énergie positive, les TEPOS, qui coordonne toutes ces initiatives. Il y a eu aussi une initiative, alors la purement citoyenne, qui s'appelle Éolienne en Pays de Vilaine, qui est la création d'un parc éolien d'initiative purement citoyenne. Ça ressemble beaucoup à ce que vous avez raconté sur l'Écosse, mais dans ce cas-là, ça a eu du succès, c'est-à-dire le parc existe. C'est quelque chose qui, effectivement, a demandé énormément de temps et énormément de difficultés pour les militants en question. Voilà, et effectivement, il y a de la part des collectivités territoriales, mais en association avec les associations, sauf effectivement pour les éoliennes en pays de Vilaine qui ont travaillé en fait tout seul, sans l'aide des collectivités locales, un souci conjoint de lier donc transition énergétique et développement local. Donc cet intérêt, effectivement, comme vous l'avez dit, de retombées économiques importantes au niveau local de la création d'énergie renouvelable. Et effectivement, ça concerne souvent des territoires ruraux en perte d'emploi, avec des difficultés économiques. Et pour eux, c'est une façon de se relancer. Cette transition énergétique.
Merci. Oui, juste sur, vous avez fait la différence entre le terme activiste et militant et son usage. Je voulais savoir comment vous concevez la différence entre ces deux termes dans votre travail.
Vous pouvez répéter, s'il vous plaît.
Il a fait la différence entre les termes activiste et militant. Donc je voulais savoir comment il concevait la différence entre ces deux termes dans son travail.
Oui, si tu veux.
Peut-être sur la première remarque, je sais pas. Juste sur la première réflexion, effectivement, là j'ai parlé de mouvements constitués de transition, mais au-delà des mouvements, et c'est pareil en Grande-Bretagne d'ailleurs, on a le même exemple aussi en Allemagne, c'est encore plus manifeste. Il y a tout un archipel de projets qui existent et qui existaient en partie avant l'émergence de ces mouvements. Mais je pense que la grande différence, c'est que donc, ces mouvements constitués, d'abord, ils ont une tendance effectivement à être assez largement distribués sur un territoire. Deuxièmement, ils font référence, comme les villes en transition, à un ensemble de principes. C'est pareil pour Colibri et pour Alternatiba. Toute une réflexion globale, ça peut être sur les enjeux stratégiques, ça peut être sur la narration, ça peut être sur l'organisation, il y a plusieurs éléments. Mais évidemment qu'autour et à côté, il y a énormément de choses au niveau local qui se passent. En Allemagne, je prenais l'exemple, parce qu'en Allemagne, par exemple, on sait que sur la transition énergétique, il y a 900 coopératives locales en Allemagne. Et inversement, il n'y a pas spécialement de villes en transition, de mouvements de transition. Je ne rentre pas dans les détails pourquoi, mais... Donc ça, effectivement, c'est tout à fait le cas, c'est important de l'évoquer. Sur la question activisme et militantisme, en fait, c'est pas joué sur les termes, effectivement, c'est parce que ce terme est souvent utilisé en... Alors c'est, les différences sémantiques sont intéressantes entre la France et l'Angleterre. En Angleterre, les discussions que j'ai eues, parce que après, le mot militant est plutôt connoté de manière négative. Terme activiste est plutôt l'équivalent du mot militant en France. Alors, pourquoi j'utilise ce terme ? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les villes en transition, comme les mouvements de transition actuels, que ce soit le mouvement français ou anglais, on a bien compris que par rapport au registre traditionnel, les militants écologistes qui avaient, j'allais dire, un agenda d'écologie politique très précis, ont mis l'accent sur le fait qu'ils étaient sur l'enjeu des solutions plutôt que sur la question de la critique du système et le plaidoyer. Alors pour être précis, les grandes ONG comme Greenpeace ou les Amis de la Terre ont traditionnellement, toujours comme, historiquement, commencé sur la question de la critique ou du système ou d'un certain nombre de projets qui leur paraissaient absolument pas pertinents, et aussi lanceurs d'alerte. Mobiliser les populations pour leur faire comprendre qu'il existe des sujets. Il faut rappeler que depuis les années 70, que ce soit en France ou ailleurs, il y avait une large méconnaissance de ces enjeux-là. Donc tout ça émerge au début des années 70. Donc là, il y avait une dimension clairement militante. Donc ça peut être aussi lié à la question de l'organisation, mais au départ, je dirais que ces mouvements étaient aussi moins formalisés. Alors que les activistes, comme son nom l'indique, actifs, on va être plus dans une dimension des solutions. C'est pour ça que c'est pas simplement la narration, créer une nouvelle narration, créer un espace de positif où on peut se projeter et comprendre les possibilités qui d'ailleurs sont très liées aussi au monde du design. Dans permaculture, on parle aussi de design, mais dans le monde des designers, toutes ces questions qu'on a soulevées sur ces questions, en anglais on parle de visioning, c'est-à-dire faire un travail des exercices sur ce que pourrait être l'avenir pour ensuite développer des projets, c'est tout à fait des approches de designers. Et donc les activistes, je dirais, sont, par rapport aux militants traditionnels, beaucoup plus dans une perspective des solutions, sachant qu'elles considèrent souvent, elles ne mettent pas en cause l'analyse critique du système nécessairement, mais elles disent que ce n'est pas suffisant. Et je vais donner un exemple qu'on a eu dans les villes en transition en France et en Ile-de-France, c'est le projet des Gonesses, où effectivement il y a un certain nombre de militants qui ont lutté contre ce projet complètement mégalo Europa City, près de l'aéroport de Charles de Gaulle. Et en fait, on s'est aperçu, parce qu'évidemment, il y a aussi des... ça aussi, c'est une chose que je n'ai pas évoquée, mais il y a aussi une fluidité sociologique. Il y a des gens qui sont à la fois militants, donc qui sont engagés dans des structures plus précises. Moi, par exemple, je suis aux Amis de la Terre, je suis même aux Amis de la Terre Paris, je suis au bureau de l'association. Et de l'autre, sont plus dans la transition, donc d'une certaine manière, ça peut être complémentaire. Et donc, des militants qui étaient engagés sur le projet des Gonesses, en fait, on s'est aperçu, nous, transitionneurs, que, en fait, ils n'avaient... Donc, ils étaient tout à fait dans une analyse très précise de l'absurdité du projet. Ils avaient des compétences énormes en termes techniques sur les législations et comment bloquer le projet, et sur les directives européennes. Ça, c'est la force traditionnelle des écologistes. Par contre, quand on leur a demandé, mais alors vous, sur ce projet, vous proposez quoi ? Et en fait, ils n'avaient absolument pas réfléchi du tout à ce sujet, ils n'avaient pas d'idée. Et la réflexion qu'on leur a faite, c'est « mais oui, mais si on veut, c'est pas simplement mobiliser les gens, mais si on veut trouver des alternatives assez... parce qu'en fait, ces projets ont aussi une narration et racontent des histoires, c'est-à-dire vous allez avoir plein d'emplois, il y avait un projet, c'était une piste de ski, effectivement, une piste de ski en Ile-de-France, c'est vachement intéressant et important. Donc il y a aussi des narrations, il y a aussi, ça crée la désidérabilité, comme on dit en franglais dans le monde du design, c'est-à-dire pour un certain nombre de gens, c'est pertinent, ça donne envie. Donc si vous voulez contrer ça, et si vous voulez en plus pas simplement vous contenter d'être dans un registre critique, c'est intéressant aussi de proposer des solutions, parce que c'est aussi, les solutions sont pas faciles à mettre en œuvre. Bon, l'activiste, il dit, ça suffit pas d'être dans une position critique et de rejet, il faut aussi s'intéresser à comment et quelles solutions on propose. Et là-dessus, je finis là-dessus, c'est intéressant aussi dans les mouvements, il y a cette discussion parmi les anthropologues américains qui ont commencé à comprendre qu'effectivement, peut-être que la position purement académique dans une analyse critique et analytique de ces projets et de ces mouvements n'était pas suffisante. Ils se sont aperçus et rappelés qu'en fait, ils avaient été eux-mêmes à l'origine en partie de ces mouvements, puisqu'ils avaient participé à la réflexion et à l'essor des discussions sur la permaculture, par exemple.